Merci. Je voterai cette délibération avec un plaisir que je ne dissimulerai pas. Et même si vous avez atténué dans votre propos à l'instant la portée de ce document et la difficulté de son application, il reste que c'est une délibération extrêmement intéressante. J'en partage complètement les attendus. Le premier, c'est une évidence que la ville de Tarbes devait acheter ce site emblématique de la ville. Le second, parce qu'il fallait conserver ce patrimoine qui nous appartient à tous, et aussi le mettre à l'abri peut-être d'autres tentations, d'autres opérations. Un bâtiment qui est protégé, certes, mais encore on peut toujours trouver des moyens d'aller à l'encontre de cela, et ça pouvait intéresser d'autres investisseurs, par exemple, qui auraient été moins intéressés que les élus locaux. Troisième attendu, en faire un lieu structurant, tout à fait d'accord aussi avec ça, et respecter son intégrité, respecter ce qu'était le site et en faire encore un site dédié au cheval emblématique de la ville de Tarbes. En effet, qui était devenu le haras dans la dernière période, semble une grande tristesse, je dirais. Toute activité concernant le cœur de métier, c'est-à-dire la fabrication de sperme, avait disparu. Les étalons progressivement n'étaient plus là. Je crois qu'il y en a actuellement zéro, hein, ou peut-être un ou deux, je ne sais pas, mais en fait, ils ont disparu. Et ce dossier est dépendant depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai le souvenir de le conseiller départemental vient de s'exprimer. Moi, j'ai le souvenir de discussions au niveau du Conseil général, peut-être déjà sous la présidence de François Fantassin, mais en tout cas sous la présidence de Joël Durieux, de 2008 à 2011, hein, où ce dossier a été débattu, discuté avec le ministère d'abord, avec l'IFC ensuite. Bon, c'est pas aujourd'hui que cela. Et tout le monde affichait sa volonté d'aboutir. Il était d'ailleurs dans les programmes municipaux des divers candidats en 2014. Bref, bon. Je me réjouis de l'issue qui est trouvée aujourd'hui et que la ville décide l'achat et le montage de ce dossier. Félicitations générales donc à ceux qui ont travaillé en amont. Et m'adressant au maire de Tarbes, je ne dégoterai pas. Et lui dirait très clairement que je salue son action. Une fois n'est pas coutume, certes, mais cette fois-ci me paraît particulièrement important. Je tiens aussi à me réjouir de l'action du gouvernement. Ah, je sens un blâme à l'assistance. Je tiens à m'en réjouir de ce côté-là. Bon, dans le compte rendu, on mettra plus mars sur les verbes, etc. Bon. Je tiens à me réjouir de l'action du gouvernement telle qu'elle est rappelée dans la délibération. C'est en effet l'article 159 de la loi de finances pour 2016 qui a prévu une dotation de soutien à hauteur de 1 milliard d'euros. 800 millions d'un côté et 200 pour les zones rurales. Et il n'est pas fréquent dans les temps qui courent, et en particulier dans cette scène ici, de féliciter le gouvernement et de se réjouir de l'action de l'État, aussi je souhaite y insister aujourd'hui. Et en effet, dans le montage financier, nous avons tous les chiffres, là, monsieur le maire, dans le dossier. Dans le montage financier, l'État, c'est 1,4 million. Hein? Mieux, si vous voudrez. Mieux, c'est ce qui est écrit, 1,4 million. 1,4 million par rapport à 4,6 millions, ça fait 30%. 30% de l'État sur ce dossier, ce n'est pas rien. Alors, passage, je note que le soutien de l'État donc, à l'investissement à bas vient, sinon contredire, du moins atténuer le discours relatif au désengagement de l'État. Et pour situer par exemple ce que je représente, c'est 1,4 million. 1,4 million, qu'est-ce que ça veut dire? Un rappel de quelques données. Entre 2015 et 2016, la DGF de TAR est passée de 8,6 à 7,3 millions. Elle a baissé de 1,3, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation des comptes. Au moment du BP, mon collègue Michel Femme, que j'excuse aujourd'hui, avait déjà fait remarquer que cette baisse ne se compensait partiellement par l'augmentation de la DSU qui était de plus 1,2 million d'euros. On est à peu près dans des chiffres équivalents. Et aujourd'hui, le soutien de l'État à l'investissement arabe de 1,4 donne un ordre de grandeur tout à fait intéressant à relever. On peut y rajouter aussi que l'État incite à la rationalisation des dépenses de fonctionnement, qui est dit d'une manière un petit peu subliminale tout à l'heure, me semble-t-il, à la tribune. Baisser les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire baisser la DGF, mais encourager l'investissement des collectivités et ce fonds de soutien à l'investissement local en est l'illustration. Mais j'arrête là parce que sinon vous allez dire que je suis partisan, ce qui est bien sûr peu éloigné de la réalité. Un dernier mot sur le sujet, nous en sommes à une étape. Elle est décisive, mais le chemin sera encore long. Et le prochain le 15, vous venez de le rappeler, et après le 15 mai, il y en aura encore d'autres, et tout ceci ne va pas se faire dans la facilité. Il y aura de la concurrence dans les dossiers. Alors, on note ici qu'il y a 800 millions d'euros au plan national, et si mes informations sont bonnes, il y a 75 millions d'euros au plan régional. Et effectivement, 75 millions d'euros sur la grande région, nous arrivons à tirer 1,4, je pense que ça sera un excellent résultat, mais je ne doute pas que nous y arrivions, parce que je crois que l'engagement de l'État au plan local n'a pas dû nous faire défaut jusqu'à présent, monsieur le maire, il ne nous fera pas défaut, j'imagine, pour la suite, et surtout, le dossier est un dossier partenarial, puisque sont sollicités également la région, et sollicité le département, et sollicité la communauté d'agglo, et ceci vient finir le tour de table, et je crois que c'est de bonne augure pour la suite.
Avant, je vais répondre à M. Pellemann. D'abord, je voulais lui dire, M. Pellemann, comment j'apprécie les propos que vous avez tenus, en tout cas au début de votre intervention. C'était rare et cher. C'était cher et apprécié. Donc, j'apprécie particulièrement les félicitations que j'adresse à mon tour à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet objectif, qui, je le dis, ne sera définitif que lorsque l'acte authentique sera signé. Et de même que le plan de financement qui vous est proposé ne sera définitivement acté que lorsque vous, ces partenaires sollicités, auront versé les sommes qu'ils pourront verser. Si l'État nous versait en effet 1,4 million d'euros, je dois dire que j'en serais particulièrement heureux. Mais déjà, il y a un engagement qui est significatif et que nous apprécions, vous l'avez vu dans l'ADN, c'est pas rien. 800 000 euros. Je voudrais vous dire, vous avez bien fait, Monsieur Palma, de me dire que c'était notre devoir de procéder à l'acquisition de ce site. Parce que ce site fait partie de l'histoire de notre ville. Comme fait partie de l'histoire de notre ville, le site de l'Arsenal a aussi été obligé d'y faire quelque chose. Mais nous parlons aujourd'hui du site d'Ara. Vous avez également eu raison de dire qu'il y avait danger. Mais je vous dis que tant que l'acte authentique n'est pas signé, le danger subsiste. Le danger subsiste. Si je puis me permettre, considérant que vous approuvez totalement notre initiative, bien évidemment, ces investissements seront étalés dans le temps, tel que cela est défini. Je me permets de vous demander, car vous avez été singulièrement discret sur la contribution du Grand Art, autant avez-vous été disert sur la contribution de l'État, qui effectivement est importante, si elle est, se concrétise dans l'avenir, mais déjà, il y a un engagement qui s'implique. Autant je suis conscient que dans ce plan de financement, la sollicitation qui est adressée à la communauté d'agglomération dans le cadre du contrat régional unique, elle est significative, elle est importante. Si je puis me permettre de vous donner quelques arguments pour faire en sorte que le Grand Art nous accompagne, comme les autres partenaires dans cette affaire d'intérêt général. Je veux dire que nous n'en faisons pas nous une affaire Tarbes. C'est une œuvre collective que nous mettons à la disposition de tous les partenaires. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec le président du conseil départemental, du partenariat que nous souhaitions nouer sur l'investissement lui-même, mais ensuite aussi sur le fonctionnement. C'est-à-dire que nous sommes prêts à imaginer, en fonction des projets qui vont se présenter, il y en a déjà pas mal qui se présentent à nous. Michel Garnier a beaucoup œuvré dans cette affaire, notamment avec tous les acteurs qui œuvrent autour du cheval. Il y a beaucoup de projets qui nous sont aujourd'hui envoyés. J'espère que demain, nous pourrons les accueillir dans le cadre de cette œuvre collective. Mais je vais vous donner un autre argument pour que le Grand Art puisse nous accompagner dans ses hauteurs qui sont, je crois bien, significatives. C'est de rappeler aux dirigeants du Grand Art qu'ils peuvent nous accompagner sur cette œuvre collective, puisqu'ils ont décidé d'abandonner le projet de Hall Multisport sur le site de l'Arsenal, qui était un projet des plus importants. Avec un engagement bien plus important, je crois bien, dans un contexte difficile. Donc je dirais que quelque part, ce serait la démonstration que la communauté d'agglomération contribue à la construction d'œuvres d'intérêt général. Elle n'a pas pu le faire sur l'atelier des sports, tel que nous l'avions dénommé, bien qu'il ait été voté à l'unanimité en décembre 2013. J'espère qu'il y a là un moyen pour le Grand Art de démontrer que c'était juste pour des questions financières et d'importants de l'investissement qu'il n'a pas pu nous suivre, et que là par contre s'agissant aussi d'une œuvre collective pour nous suivre. Monsieur Montoya, merci par avance.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette opération illustre très bien les engagements de l'État, entre autres pas seulement pour Réama, le désengagement de l'État, il est sur plusieurs secteurs. Effectivement, après l'État nous dit, on vous donne un peu. Mais l'essentiel, c'est que la vocation du Hara, la vocation première du Hara, il eût été intéressant que l'État d'abord le maintienne, d'une part, pour tout un tas de raisons, et d'autre part, s'aperçoit que c'est un transfert de dépenses vers le contribuable local. C'est-à-dire que le fonctionnement est à la charge des contribuables sur l'impôt le moins juste, que sont les taxes locales, ce qui fait qu'effectivement, l'État se débarrasse à bon compte de ce qui était sa propriété, ce qui était sa charge et sa gestion pour le refiler aux collectivités. Pas tout à fait. Aux contribuables locaux, ce qui est tout à fait différent. Et les élus locaux en assumeront la gestion. Mais qui paiera ? Voilà. C'est qu'à terme, il n'y a pas simplement l'investissement. On va nous donner 30%. C'est bien joli, 30%. Mais ils auraient rien eu à donner si effectivement ils l'avaient gardé et nous n'aurions pas de dépenses à effectuer. Et on aurait pu, effectivement, si l'État avait voulu, eh bien, en partenariat avec les collectivités, pour voir l'avenir, le développement de Duhara. Qu'est-ce qu'on peut arriver ensemble ? Mais, parce que c'est dans tous les secteurs, c'est pareil pour les hôpitaux, c'est pareil pour tout un tas de secteurs essentiels et primordiaux, nécessaires à la vie publique et à la vie de la population. Donc moi, c'est la première remarque que dans la suite, forcément. Quand on a cela qui est mis sans patule, qui est lâché par l'État, qui aurait pu être saisi par les promoteurs immobiliers, qui aurait pu être sujet à spéculation, et que sais-je. Donc effectivement, je suis pour la mainmise publique sur ces affaires-là, et surtout sur les affaires de foncier. Je suis pour le maintien du patrimoine, donc effectivement, je ne peux que me féliciter qu'il y ait cette solution publique. Mais je dirais, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller parce que l'État, dans le cadre de la terre et de sa politique, effectivement. Mais voyez la situation du Hara qui est laissée à l'abandon. Mais puisque nous sommes plusieurs ici à siéger, il faudrait remarquer que le désengagement de l'État, il est également d'ailleurs dans d'autres secteurs. Ça illustre la politique de l'État, mais de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dure. On peut la voir lors des conseils de surveillance de l'hôpital. Par exemple, je dirais qu'on peut le voir dans l'éducation, on peut le voir dans les secteurs importants, de transférer les charges vers les collectivités, c'est-à-dire de faire payer davantage le contribuable local. Donc, oui. Moi, je voterai cette délibération, mais sans dire ce que je pense sur la façon, sur la méthode et la politique qui conduit à cela. Je ne m'en félicite pas.
Merci, M. Montoya. Ce qu'il y a de bien avec vous, et vous m'avez fait là, c'est que, d'abord, j'apprécie le ton et le fond, vous savez. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous parlez du gouvernement, vous faites le job pour vous et pour nous. Donc, je n'ai même pas besoin d'accepter quoi que ce soit ce que vous venez de dire. Je vous dis amen. Vous auriez très bien dit
Je ne fais pas en fonction de mes convictions, oui, je sais, et pas par rapport à ce mes calculs.
Je le sais, je le respecte.
Bonjour, vous savez. Excusez-moi. Oui.
Vous auriez très bien dit dire. Finalement, puisque c'est l'État qui vend le site à la ville, pourquoi le vendre-t-il 2 millions ?
D'accord.
Vous pouvez très bien le vendre 600 000 euros et puis ne rien nous donner. Parce que le prix de vente, c'est quelque chose qu'on va payer.
Oui, oui, bien sûr.
Et le 1 400 000, c'est pas sûr qu'on les reçoive tous.
D'accord.
Bon, c'est déjà une première réponse. Mais okay, ce que M. Palman a esquissé tout à l'heure, vous venez d'évoquer aussi, est un véritable danger. C'est pour ça que je dis que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. C'est un véritable danger. Parce que curieusement, derrière les acquisitions des sites de la RAM, en France, c'est un neuf, on a vu intervenir une société financière immobilière d'État. Il s'est déjà illustré dans le passé par les acquisitions de casernes, des mantellements, en vente, etc. Et c'est pour ça que nous nous sommes déterminés rapidement pour éviter, j'espère qu'on pourra l'éviter, l'intervention de cette société immobilière d'État qui, effectivement, d'après ce qu'on nous a dit sur le site, quand ils sont venus le voir, ils ont déjà imaginé avez esquissé l'un et l'autre, c'est-à-dire un démantèlement du site et une revente des coûts. Ce que nous ne pouvons en aucun cas imaginer. Et par ailleurs, si cela devait se faire un jour, j'espère que non, que début juillet, c'est fini. Je ne pourrais même pas utiliser, je pense, le droit de préemption, puisqu'il s'agit de l'État. Donc, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Ensuite, bien sûr, M. Montoya, que nous regrettons tous les activités sur le site du Hara, la reproduction de chevaux pour la cavalerie française, etc. C'est un peu comme sur le site de l'Arsenal, quand il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'entreprise. Et là, même chose, plus besoin de procéder à la reproduction des chevaux pour alimenter la cavalerie française, peut-être pour servir à la rigueur la garde républicaine, voilà, donc c'est un peu limité. Et ceci étant, vous évoquez toujours les bonnes questions avec un bon sens que j'apprécie. Et nous avons eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps. Vous l'avez évoqué lors du conseil de surveillance de l'hôpital où les inquiétudes sont très grandes aussi. Dans les pires vieux, vous aviez levé la main.
Oui, tout à fait. J'inviterai un instant après l'intervention de M. Palmade que votre intervention et Yara allaient permettre le redressement de la cote de popularité de François Hollande. Mais Pierre Montoya vient de démontrer que ce serait un peu plus compliqué que cela, sur le fond comme sur la forme. Non, plus prosaïquement, je voulais tout simplement dire que ce samedi, j'ai été obligée de lire au Hara. Dans des locaux qui avaient été restaurés et dévolus à la culture, et que quand on rentre dans ces haras, on vit quand même quelque chose de magnifique, encore plus si on reporte à ce qu'est notre ville, hein, dans la diversité de sa population. Et donc je souscris vraiment à 100% au fait que c'est un patrimoine à valoriser, pas valoriser simplement pour le passé d'ailleurs, hein, pour ce qu'il a constitué, mais valoriser comme un outil pour l'avenir. Donc je crois que c'est quelque chose d'important et je crois qu'il est suffisamment fort pour faire au-delà de notre courant politique, de nos convictions, qu'on soit capable de le porter en commun pour l'intérêt de la ville, pour l'intérêt des Tardais et de notre bassin de vie et d'emploi également, puisque derrière il y a de l'emploi. Voilà. Ça, je tenais à le dire. Je tenais à dire également que, mais vous l'avez évoqué il y a un instant, que ce devenir des haras, il impactait Tarbes, mais il impactait également le territoire intercommunal et d'agglomération qu'on est en train de reconstruire. Et que d'après moi, il va changer en profondeur un certain nombre de rapports sociaux quoi, dans ce territoire, parce que selon ce qu'on va y faire, eh bien, on rentrera différemment sur les questions culturelles, sur les questions du cheval, et ça va bouleverser en profondeur ces équilibres-là. Et je trouve que c'est important, et je trouve que ça concerne à la fois la ville de Tarbes, mais en effet d'autres collectivités, dont on est ou pas élu, mais qui vont devoir s'engager, et ça me paraît vital. La toute dernière chose, là, qui est quelque chose, me semble-t-il, à prendre en compte également, c'est que ça mériterait, me semble-t-il, lors du conseil municipal de Juin, qu'au-delà de cet achat, on commence à entrevoir un projet qui va être porté sur ces haras. Je ne vous demande pas de dérouler le projet fait. Mais par contre, l'idée qu'il porte une ambition pour le devenir d'un point de cheval, l'idée comme ça a pu être transparaître en filigrane, qui porte l'ambition sur le développement culturel. Vous avez parlé, monsieur le maire, tout à l'heure, d'archives départementales. Il y a d'autres grands travaux qui sont en train d'être connus. Je crois que ça serait important de le porter au niveau du conseil municipal pour une raison simple. C'est que plus ça sera une production collective, y compris en dehors des élus qui sont ici, mais avec une série d'associations et d'acteurs tardés, pas que des acteurs économiques d'ailleurs, eh bien, plus ça permettra à ce projet d'être fort, et notamment dans le droit de faire,
Je vous approuve sur tout ce que vous venez de dire. Moi, il y a une chose que peut-être tout le monde n'a pas pu apprécier, parce qu'il y a beaucoup d'armées qui vont sur le site de Racontec, etc. Mais quand on rentre dans ce site magnifique, en cœur de ville, comme vous l'avez fait pour aimer du livre, eh bien, on est tout de suite transporté ailleurs. C'est quelque chose de magique quand on rentre. Il y a une paix qui nous envahit, qui est incroyable. Vous le verrez, puisque...
Tu l'as senti.
Faudra y faire les conseils municipaux décentralisés, oui. Alors.
Je me demande d'ailleurs si je ne pourrais pas imaginer...
Le futur agro de...
là-bas, le conseil municipal. Enfin, en tout cas, c'est un site qui ne peut pas laisser indifférent. D'abord, je l'ai déjà dit,
c'est harassant.
Puis, sur tous les plans, il est magnifique. Sur le plan architectural, sur le plan végétal, il y a des essences d'arbres avec un arboretum qui permet aux visiteurs de suivre un parcours un peu comme au jardin massé, je préfère le dire. Donc, c'est magnifique.
Voilà.
Là où il est plus difficile, Marie-Pierre-Vieux, de répondre tout de suite à votre question, c'est de nous demander de présenter dès le mois de juin, 15 juin, c'est-à-dire pas un mois, le contenu du projet. Aujourd'hui, nous avons des contacts avec des gens qui sont prêts déjà à signer des choses. Mais tant qu'on n'est pas propriétaire, on ne peut pas s'engager sur les premiers contacts que nous avons. Nous sommes ouverts à toute proposition. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet, chez Bernier, Jean-Luc Cossou, tout le monde, nous sommes ouverts à toute proposition. Par exemple, vous l'avez évoqué, par exemple, le parvis est intéressé pour que sur le plan culturel, nous puissions tisser un partenariat sur ce site. On en verra le contenu. Et les modalités. Bon, mais sans le parvis, le contenu sera plus facile à imaginer les modalités, mais bon, peu importe. En tout cas, ça veut dire que déjà, il y aura très vraisemblablement des réflexions sur le projet culturel sur lequel nous travaillons, avec ces boulets et les demi-crampes, le projet culturel qui, sous l'égide de la DRAC, est en cours d'élaboration. Intégrera bien évidemment l'offre ARA. Ensuite, nous avons de façon simple, voire même simpliste. Dans notre projet, Marie-Pierre, il y aura sur le site de ARA des hommes et des chevaux. Des hommes et des femmes, bien sûr. Des chevaux. Voilà. Et si nous avons prévu, par exemple, dans les premiers investissements que nous avons programmés, la création d'une piste tout en, la rénovation du manège couvert, qui est dans un état lamentable, l'installation d'une couverture sur la piste, sur la carrière qui sert pendant les Castillas, il y a les beaux dégâts, la carrière, il y a le spectacle aussi. Ça veut dire que nous avons déjà des contacts avec des partenaires possibles, potentiels, pour qu'il puisse y avoir des invitations avec des chevaux, qu'il puisse y avoir, qu'on revoie de nouveau des concours sur le site. Moi, je me souviens, du temps de Robert Echen, il y avait des concours formidables au Haras d'État.
Et à l'époque, Ferdinand Foch.
Alors, il y avait moins en moins de public.
Moi, je me souviens d'intégrer Ferdinand Foch.
Quand, avec Michel Garnier, on a réuni la première réunion tous les acteurs du cheval, on leur a dit, bon, écoutez, vous avez le droit d'imaginer toute possibilité de collaboration sur le site du Haras. Nous, on recherche des activités qui puissent être génératrices de recettes, quand même. Parce qu'on va s'engager, croyez-moi, à bien plus que 937 000, comme vous le voyez, je le sais très bien.
à s'engager quand même sur des questions importantes. Il faut qu'on puisse avoir des recettes pour faire face et aux frais de fonctionnement, comme vous l'évoquiez, et au financement de l'investissement. Croyez-moi, je me contenterai de ce qu'on appelle le petit équilibre, c'est-à-dire de pouvoir financer juste les dépenses de fonctionnement et non pas l'amortissement des emprunts que nous ferons pour l'investissement. Mais, je prends l'exemple du sujet que je viens d'évoquer, si on veut organiser de nouveau des concours sur ce site, ben, les concours, ce sont des manifestations absolument somptueuses. J'en ai connu où il y avait plusieurs centaines de cavaliers au concours qui venaient dynamiser et restaient 3-4 jours en retard. C'est dynamiser un peu le commerce local, etc. Mais ce sont des manifestations qui sont davantage génératrices de dépenses que de recettes. Il faut contribuer au prix, etc. Tout ça, nous verrons. J'espère, et je vais prendre l'engagement ici, que nous pourrons en débattre ensemble du projet que vous souhaitez évoquer quand celui-ci commencera à se mettre en place. Nous avons déjà Maréchal Ferrand qui va venir, nous avons une jeune femme, Salvi, qui s'est installée sur le site, etc. Puis d'autres projets en cours de discussion. Mais là, ce sera prématuré le 15 juin. Voilà. Monsieur Montama, oui.
Je suis complètement d'accord avec tout ce qui est en train de se dire. En gros, il adhère totalement à ce projet qui me paraît super pertinent. Le contenu, bien évidemment, nous intéressera et nous plaira aux uns et aux autres. Simplement, j'ai cru comprendre que Michel Garnier était avec, en contact et avait beaucoup travaillé sur ce projet. Ce n'est même pas un conseil, c'est une sollicitation. Je n'ai pas d'affinité particulière avec le monde du schéma, mais j'adore ça. Mais on constate tous qu'il y a une myriade de clubs équestres dans toute l'agglo et la périphérie de l'agglo. Et je ne sais pas sous quelle forme vous avez posé la concertation, mais peut-être que ça aurait été bien d'avancer une carrément formelle avec l'ensemble de tous les clubs équestres qui sont sur l'ensemble de l'agglo pour voir s'il n'y a pas une mise en commun qui soit réalisable tant sur le contenu du projet que éventuellement après sur l'utilisation de ce site. Pour la rendre la plus, je parle de l'utilisation la plus démocratique possible et au regard des milliers d'enfants qui sont sur la gauche, qui pratiquent déjà du cheval et enfin ouvrir les portes de cet endroit somptueux d'une manière, et y compris périscolaire, et en accord avec l'ensemble de ce myriade de clubs équestres qui entoure l'agglomération. Voilà.
Je vais vous donner quelques pistes quand même de sujets sur lesquels nous travaillons. On ne veut pas faire concurrence aux clubs équestres qui existent. Non, attends. On ne veut pas leur faire concurrence. Ils ont des génèbres, ils gardent des chevaux, etc., des potions. Mais je vous donne quelques pistes sur lesquelles nous essayons de travailler aujourd'hui. C'est, par exemple, de faire de la formation au métier des arts équestres. C'est d'accueillir, nous avons rencontré quelqu'un qui a un projet très sérieux sur le sujet. L'activité d'équithérapie pour le cheval apporte des solutions extrêmement positives dans le cadre de certaines maladies, notamment pour les gamins atteints de certains handicaps, etc. Donc nous réfléchissons à tout ça. Notre objectif, c'est pas, parce qu'on veut absolument avoir des chevaux, essayer de faire un super club équestre pour concurrencer les clubs équestres qui existent. Mais je l'ai dit et je le redis, nous sommes ouverts à toute proposition. Et s'il y en a qui ont des projets d'animation, qui, ces animations, ils désirent les faire sur le site, nous sommes à l'écoute de tout le monde. Voilà. Je crois qu'on a eu un débat extrêmement intéressant et bon, vu que c'est bien de travailler à ces conditions, que tout le monde est d'accord. J'espère que pour l'avenir, pour les autres sujets, on pourra aller dans la même direction.